Donc bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis heureux de pouvoir être avec vous en tout cas aujourd'hui. Content aussi de revoir certains visages parmi nous aujourd'hui. Donc ça nous fait plaisir en tout cas et aussi à vous qui nous suivez sur Zoom. Donc Nyojong Shongqia, qui veut dire bonne année en Hmong. Ne vous inquiétez pas. Et pour souhaiter la bonne année en Hmong, nous disons Nyojong, qui signifie « bonjour », et « Shongqia », qui signifie « nouvel an » ou « nouvelle année ». Voilà, c'est notre formule pour souhaiter une bonne année. Sinon, je me réjouis d'être avec vous cet après-midi pour louer notre Dieu et nous mettre tout simplement à l'écoute de sa parole. Pour ceux qui nous visitent, je rappelle que nous avons décidé avec pasteur Philippe et pasteur Daniel, en cette nouvelle année, de commencer une nouvelle série de prédications sur la lettre aux Éphésiens. Donc l'apôtre Paul, dans cet épître, nous expose le grand projet de Dieu, la personne de Christ et l'Église. Et je crois que ces vérités bibliques que nous verrons dans cette série de prédications nous aideront à grandir dans notre connaissance de Dieu et de sa volonté, à toujours plus faire confiance à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et aussi nous permettront de mener une vie toujours plus agréable à notre Seigneur. Et donc, la semaine dernière, pasteur Philippe nous a exhortés sur les 14 premiers versets du chapitre 1. Et quelle exhortation nous avons eue, n'est-ce pas? Il nous a magnifiquement présenté ce grand projet de Dieu. Ce projet dans lequel tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus sont comblés de bénédictions. Pour que nous puissions nous rappeler des bénédictions que Dieu nous accorde, pasteur Philippe nous a partagé cet acronyme CADEAU proposé par le professeur Dominique Angers. Nous avons été choisis, adoptés, délivrés, éclairés, acquis en étant unis à Christ. Est-ce que vous avez, durant cette semaine, pris le temps d'être reconnaissant dans vos prières pour toutes ces bénédictions, comme il nous l'a été invité? Voyons ensemble en profondeur ce que dit le texte d'aujourd'hui. Mais avant, un bref rappel du contexte pour celles et ceux qui n'auraient pas assisté au culte le dimanche dernier, mais il est également bon pour nous, voilà, de rappeler le contexte pour nous qui étions là. Lorsque l'apôtre écrit cette lettre, il se trouve en prison, sans doute à Rome, vers 62 après Jésus-Christ. Et d'après plusieurs spécialistes, sa lettre n'est sûrement pas adressée aux seuls chrétiens de la ville d'Éphèse. Ce serait une lettre circulaire adressée à un groupe d'Asie mineure, donc l'actuelle Turquie, comme vous pouvez le voir sur la carte, car dans les meilleurs manuscrits, il n'y a pas de mention de localité à l'endroit où Paul adresse ses salutations au chapitre 1, lorsqu'il dit « Salut ceux qui, trois petits points, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ ». Mais cependant, certains commentateurs pensent que Paul s'adresse bien aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse. Certes, sans rentrer dans le débat, ce qui est important pour nous, soit que la lettre est destinée à un groupe d'Asie mineure ou aux chrétiens d'Éphèse, la lettre de Paul reste pertinente pour nous aujourd'hui, pour nous, Église de Saint-Maur. Et j'aimerais vous poser une question. Pour quel sujet avez-vous l'habitude de prier? Est-ce pour votre famille, vos amis, vos proches, votre santé, vos biens matériels, votre nourriture, votre travail, votre foi, ou bien voilà, autre chose aussi? Pourquoi cette question? Car aujourd'hui, le texte que nous étudions est une prière. Voyons ensemble le contenu de cette prière de l'apôtre et en quoi elle peut nous aider lorsque nous formulons nos prières. Tout d'abord, la reconnaissance. Je relis les versets 15 et 16. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu, à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières. Paul, dans ces deux versets, commence par « pour toutes ces raisons » ou dans d'autres versions, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il est dit « c'est pourquoi ». Et donc cette formule est en lien direct avec tout ce que Paul a dit précédemment. La raison pour laquelle Paul prie avec confiance pour les Éphésiens, c'est qu'il désire que les Éphésiens prennent conscience des bénédictions que Dieu leur accorde en étant unis à Christ. Que ce cadeau que Dieu leur offre fasse partie de leur vie quotidienne. Et dans le verset 15, nous voyons deux sujets qui poussent l'apôtre à exprimer sa gratitude à Dieu pour les Éphésiens. Le premier, leur foi au Seigneur Jésus-Christ. En mentionnant leur foi, Paul se réjouit que ces chrétiens persévèrent dans leur marche avec le Seigneur. Car cela ne devait pas être facile pour les Éphésiens dans leur contexte, voilà, avec toutes les divinités et les fausses doctrines. Le deuxième, leur amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Paul est heureux d'entendre que les chrétiens d'Éphèse ont de l'amour pour tous les frères et sœurs en Christ. En effet, pour l'apôtre, c'est la qualité suprême que devrait avoir chaque chrétien. Si vous voulez savoir ce que Paul dit sur l'amour, je vous invite, durant les deux semaines qui arrivent avant que le premier mois de l'année s'achève, à lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13. C'est juste magnifique. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons déjà apprendre de la prière de Paul dans ces deux versets? Comme Paul, prions avec confiance pour les membres de notre Église de Saint-Maur, pour que chaque membre dans ses activités, son travail, ses loisirs, puisse se rappeler que Dieu lui a accordé des bénédictions, ce cadeau. Et en nous rappelant tout ce que Dieu a fait pour nous, nous adopterons plus une attitude de reconnaissance et on se plaindra moins, tout simplement. Soyons reconnaissants dans nos prières pour les frères et sœurs en Christ que nous avons dans l'Église, pour leur foi, pour leur persévérance à suivre Christ, aussi pour leur amour envers chacun et chacune d'entre nous. Voilà, malgré la crise sanitaire, le cluster qui a touché pas mal de membres de notre Église, chacun a su manifester de l'amour, voilà, ne serait-ce qu'en envoyant un SMS pour savoir si les personnes positives au Covid allaient mieux, ou en les appelant directement ou tout simplement en priant pour leur guérison. Continuons avec la suite du texte pour savoir ce que l'apôtre prie. Je lis les versets 17 à 19. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui appartiennent à Dieu? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui? Dans ces trois versets, nous voyons clairement ce que demande Paul lorsqu'il prie pour les Éphésiens. Et pour moi, ce que demande l'apôtre Paul, c'est le message central dans sa prière. Comme Paul, centrons nos prières sur l'essentiel. Connaître Dieu davantage et comprendre ce qu'il met à notre disposition. Voilà, si vous deviez retenir une chose de ce message, c'est bien celui-ci. Comme Paul, centrons nos prières sur l'essentiel, à savoir connaître Dieu davantage et comprendre ce qu'il met à notre disposition. J'aimerais attirer votre attention, comme vous le voyez, j'ai mis quelques couleurs dans les versets pour nous permettre tout simplement de mieux comprendre. Dans le verset 17, ce que demande Paul pour les Éphésiens, c'est qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu. C'est ça son grand désir, ce qui est souligné voilà, ici en orange. Ensuite, au verset 18, Paul détaille sa demande du verset 17. Connaître Dieu nécessite de comprendre l'espérance à laquelle les chrétiens d'Éphèse ont été appelés, la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu leur accorde avec tous les chrétiens et l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre de tous ceux qui lui font confiance. Pour pouvoir connaître Dieu, continuer à progresser dans la connaissance de sa personne et comprendre ce qu'il met à notre disposition, Paul mentionne un élément fondamental. C'est par son esprit. Oui, c'est seulement par l'esprit de Dieu que les Éphésiens seront à même de comprendre, de connaître Dieu et de comprendre tout ce qu'il met à leur disposition. L'esprit de Dieu fait partie des bénédictions que Dieu leur a accordées. Paul l'avait déjà mentionné plus haut, versets 13 et 14. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui ont cru en Jésus, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Cette bénédiction nous est acquise. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Comment en fait je sais que l'Esprit demeure en moi ? Pour ma part, dans la vie de tous les jours, voilà, je ne ressens rien de particulier. Dieu ne m'a pas parlé directement. Tiens, je t'accorde mon esprit. Et donc, comment savoir que l'esprit demeure en nous ? Tout simplement parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. La parole de Dieu. Si nous croyons en la Bible, c'est parce que l'esprit de Dieu demeure en nous. C'est lui qui agit en nous afin que nous placions notre confiance dans ce qu'affirment les Écritures. Si nous sommes capables de croire en la Bible, c'est parce que nous avons bien reçu l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, c'est bien ce que dit Paul aux chrétiens de Corinthe dans sa première lettre au chapitre 2. Or nous, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Chers amis, ne soyons pas en quête voilà, d'avoir des sentiments, de ressentir des émotions fortes pour être convaincus que l'Esprit de Dieu habite en nous. Au contraire, plaçons toujours notre confiance dans ce qui est écrit dans la Bible. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu et son rôle est de nous révéler seulement ce qui est écrit dans la Bible et non autre chose. Est-ce que ça va jusque-là ? Ça va ? Bien, continuons notre étude de la parole de Dieu. Paul, dans sa prière, demande que Dieu, par son esprit, donne sagesse et révélation aux chrétiens d'Éphèse pour qu'ils le connaissent. En réalité, les Éphésiens connaissent déjà Dieu. Ils ont été bénis par lui. Ils ont reçu ce cadeau, comme nous l'avons vu dans les 14 premiers versets. Mais en demandant cela, Paul désire qu'ils grandissent toujours plus dans la connaissance de Dieu. Et pour cela, les chrétiens d'Éphèse ont besoin que Dieu leur donne, par son esprit, sagesse et révélation. Qu'est-ce que la sagesse et la révélation ? En tout cas, je trouve que la Bible du Semeur, merci, définit bien ces deux termes. Voici ce qui est écrit pour la sagesse. La sagesse englobe la compréhension, l'intelligence, le bon sens, la connaissance, le jugement, le savoir-faire, l'art de bien se conduire. Cette sagesse est un art de vivre et de se comporter dans les diverses situations de l'existence. Et ensuite, révélation. Bon, désolé, hein, peut-être pour ceux qui veulent noter les définitions. Dans le Nouveau Testament, le mot « révélation » ne désigne pas nécessairement une communication directe de la part de Dieu, mais il peut aussi désigner, comme ici, l'action divine par laquelle une personne est rendue capable de comprendre la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous révèle quelque chose, c'est qu'il nous fait, il nous permet de comprendre. Nous voyons que Paul, dans sa prière, n'emploie pas des mots au hasard. Il prend le soin de choisir ses mots. Et ces deux éléments qu'il demande, sagesse et révélation, permettent de mieux comprendre et mieux connaître Dieu. De plus, au verset 18, lorsque Paul dit qu'il illumine votre intelligence, il exprime la même chose qu'au verset précédent, mais avec différents mots. L'expression « qu'il illumine ainsi votre intelligence », donc littéralement « qu'il ouvre les yeux de votre cœur », et le cœur, selon la Bible, c'est le siège de la pensée et de la volonté. C'est de ce verset que l'auteur du chant « ouvre les yeux de mon cœur », que nous avons chanté tout à l'heure, a dû s'inspirer. Paul sait que pour grandir dans la connaissance de Dieu et de ce qu'il met à notre disposition, l'Esprit de Dieu doit produire une œuvre dans les chrétiens, c'est-à-dire qu'il renouvelle, réoriente, restructure notre pensée. Je pense qu'il vous est déjà arrivé la même chose que moi. Vous ouvrez votre Bible, vous lisez un livre ou un passage. Ce livre ou ce passage, vous l'avez déjà lu. Et pourtant, ce jour-là où vous le lisez, vous avez l'impression que c'est la première fois que vous le lisez. Tellement le passage, en fait, il vous a touché. Vous arrivez à comprendre le message que l'auteur a voulu transmettre. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Nous ouvrir les yeux pour que nous voyions avec les yeux de Dieu. Nous ouvrir les yeux pour que nous voyions avec les yeux de Dieu. Tant que nous serons dans ce monde corrompu par le péché, nous aurons besoin de l'Esprit pour qu'il renouvelle notre manière de penser, pour que nous puissions mener toujours de plus une vie qui plaise à Dieu. Et l'apôtre, dans cette prière, désire que l'Esprit permette aux chrétiens d'Éphèse de comprendre notamment trois choses. L'espérance à laquelle Dieu les a appelés. Cette espérance fait partie des bénédictions que nous avons vues dimanche dernier. Plus précisément, le fait que Dieu les a choisis, qu'il les a appelés à lui, que l'Esprit de Dieu constitue l'acompte de notre héritage qui leur a été accordé. En se rappelant de cette espérance, même dans l'adversité, face à des situations difficiles, les Éphésiens peuvent trouver de la joie, car ils appartiennent à Dieu Et ils ont cette certitude que Dieu les délivrera. Frères et sœurs, si en ce moment tu traverses des moments difficiles, que ce soit dans ton foyer, dans ton couple, dans ta situation professionnelle, ou dans tes diverses difficultés, dans tes diverses activités, pardon, rappelle-toi que Dieu t'aime. C'est pour cette raison qu'il t'a choisi, qu'il t'a donné son esprit, comme un avant-goût tout simplement de ses bienfaits. Et sois-en certain, il te délivrera de toutes tes détresses. Vous aviez l'année dernière comme thème « Persévérer dans l'espérance ». Et donc cette année, ensemble, témoignons de cette espérance. Ensuite, Paul veut également que les chrétiens saisissent la glorieuse richesse de l'héritage qu'ils partageront. Comme pasteur Philippe l'a expliqué la semaine dernière, notamment avec les versets 11 à 14, que l'héritage peut se comprendre de deux manières. La première, les chrétiens sont l'héritage de Dieu, car ils ont obtenu l'esprit avec lequel Dieu les a marqués de son sceau. Et la deuxième, en accordant l'esprit qui constitue l'acompte de l'héritage, c'est-à-dire un premier versement, les chrétiens sont garantis d'avoir un héritage futur. En écrivant ma dissertation sur le sujet de l'adoption, une chose qui m'a encouragé, Paul nous dit en Romains 8, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes cohéritiers du Christ. C'est-à-dire, nous hériterons le royaume. Nous retrouverons le rôle d'Adam et Ève. C'est-à-dire que nous dirigerons le monde. Nous le gouvernerons avec Christ. Lorsqu'il reviendra, ou lorsqu'il nous ressuscitera. Que cet héritage puisse être un sujet d'encouragement pour nous à vivre d'une manière de celui qui nous l'accorde, soit en se rappelant que nous avons obtenu l'Esprit Saint et que nous appartenons à Dieu, soit en nous souvenant que l'Esprit n'est qu'un avant-goût des bienfaits que Dieu nous donne et que nous hériterons le royaume. Enfin, Paul prie pour que les chrétiens comprennent l'extraordinaire grandeur de la puissance que Dieu met en œuvre en leur faveur. Comparé aux deux autres sujets évoqués précédemment, dont on avait trouvé écho dans les bénédictions, ici, Paul évoque la puissance de Dieu. Et en fait, on peut se demander pourquoi il le mentionne. C'est sans doute dû au contexte de l'époque, à cause de l'influence du monde païen où régnait la magie et l'astrologie. Les chrétiens ont sûrement fait face à des puissances démoniaques. Leurs expériences contre des forces hostiles les ont sans doute troublés. C'est pourquoi Paul veut les rassurer et qu'ils réalisent que cette puissance de Dieu accorde la victoire dans le combat spirituel. On retrouve ce thème au chapitre 6 où Paul dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Cette puissance, elle s'exprime à la croix. Rappelez-vous lorsque Jésus a dit qu'il fallait qu'il meure pour que s'accomplissent les Écritures. En fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi, et même les disciples. Tous s'attendaient à ce que le Messie les délivre de l'oppression romaine, des puissances militaires. Mais c'est à la croix que Dieu délivre l'être humain. C'est là qu'il règle le cœur du problème qui est le péché. Et c'est cela, en fait, dont l'homme a tout d'abord besoin d'être délivré. En ressuscitant Jésus, la mort a été vaincue. C'est ce que Paul écrit en 1 Corinthiens 15. Comme dit le texte, Dieu démontre sa puissance en ressuscitant Jésus et en l'en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Je vais, comme André m'a ramené un petit verre, j'en profite. Aujourd'hui, oui, dans ce monde déchu, nous ne pouvons pas éviter la mort. Mais rappelons-nous que la mort a été vaincue et que Dieu nous ressuscitera. Écoutons ce que Paul dit en 1 Corinthiens 6, verset 14. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Pour toutes celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus, souvenons-nous que lorsque nous disons que Dieu est puissant, ou quand nous le chantons, c'est que la mort n'a plus de pouvoir. Dieu a ressuscité Christ. Il nous ressuscitera aussi. Cette vérité, elle doit nous apporter du réconfort dans notre vie quotidienne. Surtout en ce moment avec cette pandémie où voilà, tous les jours nous apprenons que des gens meurent. Cette puissance de Dieu amène Paul à le louer. Je relis les versets 19 à 23. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est bien placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. En effet, Paul, dans sa prière, ne s'arrête pas juste voilà, à des demandes, mais il prend le temps de louer Dieu. Et déjà, rien que ça, le fait de ne pas simplement voilà, faire des requêtes à Dieu, mais aussi de le louer, nous permet de prendre exemple. Car pour être honnête, voilà, moi le premier, est-ce qu'il nous arrive souvent dans nos prières de louer Dieu après avoir fait toutes voilà, nos demandes? Si vous le faites, continuez. L'apôtre nous donne un bel exemple, comme nous l'avons vu précédemment. Il loue Dieu notamment pour sa puissance manifestée en Christ, en le ressuscitant et le faisant siéger à sa droite. Nous connaissons souvent la notion de résurrection, signe de victoire face au péché, à la mort. Je tiens à rappeler que la résurrection de Christ, qui nous permet, c'est ça qui nous permet justement de bénéficier d'une nouvelle relation avec lui. Nous avons moins de connaissances lorsqu'on dit que Christ siège à la droite de Dieu. Et le fait que Christ siège à la droite de Dieu montre que sa mission est terminée et réussie. Le théologien Dominique Angers remarque que, selon Éphésiens 2, au verset 6, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, mais que contrairement à lui, nous ne sommes pas à sa droite. Dans le psaume 110, au verset 1, il est dit, psaume de David, déclaration de l'Éternel, il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. David parle de la droite de Dieu comme une place où les ennemis sont mis sous les pieds du roi. Le roi règne sur ses ennemis. Cette place évoque donc la notion de pouvoir et d'autorité. Justement, Paul fait allusion à ce texte, à ce psaume 110. Que nous puissions nous rappeler que lorsque Dieu fait siéger Christ à sa droite, c'est une place d'honneur et qu'il détient tout pouvoir et toute autorité. D'ailleurs, le texte précise, dans le monde céleste, c'est-à-dire tout l'univers. Comme le verset 21 l'indique, c'est le fait que Christ siège à la droite de Dieu et dans le monde céleste qu'il est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Oui, Christ règne depuis la création du monde. Il règne encore aujourd'hui et il règnera à jamais. Cette vérité de Paul doit rassurer les chrétiens d'Éphèse. Christ est au-dessus de toutes les fausses divinités, toutes les puissances démoniaques. Nous aussi, elle doit nous rassurer, cette vérité, que celui en qui nous avons placé notre confiance domine sur toute chose et que tout est sous son contrôle. Peut-être que certains d'entre vous vivent actuellement des luttes, des combats. Et parfois, nous pensons juste que c'est des problèmes terrestres. Mais n'oublions pas que les forces spirituelles existent et qu'elles sont bien réelles. Prions Dieu qui a placé Christ au-dessus de tout, nous délivre de nos combats et de nos luttes. Pour l'expression « Dieu a placé tout sous ses pieds », Paul reprend une citation du psaume 8 au verset 7 où il est dit « Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes ennemis. Tu as tout mis sous ses pieds. » En effet, David, dans ce psaume, exprime la grandeur de Dieu et de l'homme. Dieu a donné à Adam de régner sur la création. Tout a été mis sous ses pieds. Pareillement pour Christ, lui, l'homme parfait, Dieu lui donne de régner sur toute la création. Tout doit lui être soumis, même l'Église. Et pour finir cette louange, Paul rappelle que Dieu a donné pour chef à l'Église, qui est son corps littéralement. Littéralement, désolé, Dieu a donné Christ pour être la tête de l'Église, qui est son corps. Et c'est vrai que voilà, c'est une image, je pense, que nous connaissons tous. Voilà, Christ, la tête, nous, l'Église, nous sommes son corps. Et cette image, je trouve qu'elle reflète bien cette vérité dont parle Paul. Et rappelons-nous, Église de sa mort, que c'est Christ qui est à la tête. C'est lui le chef. C'est envers lui que nous devons nous soumettre. Même si, voilà, nous avons des pasteurs que vous appréciez, pasteur Philippe, pasteur Daniel, assurez-vous que leurs paroles et leurs actes soient conformes à ce que Jésus enseigne. Et notre rôle en tant que berger est de vous amener à adorer Christ. Et Christ seul, car lui seul est digne de recevoir l'adoration. L'affirmation, lui en qui habite toute la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous, n'est pas la plus simple à comprendre. Mais voici ce que propose en tout cas Dominique Angers. Bon, je le cite souvent parce que son commentaire, je trouve qu'il est top et il éclaire bien en tout cas les propos de l'apôtre. Pour lui, il existe une autre manière de traduire le verset 23 qui figure dans les notes de la Summer. Et voici, il modifie et voici comment il traduit. Bon, je ne l'ai pas noté, mais je vous le lis. Il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps où se manifeste pleinement celui qui remplit tout à tous égards. Et pour lui, le fait de traduire ainsi permet de comprendre que c'est dans l'Église que Christ manifeste pleinement sa présence. Même si Christ règne sur tout l'univers, c'est spécifiquement dans l'Église qu'il choisit de demeurer. Et pour nous, être conscient de cela devrait nous rappeler combien nous sommes en fait des personnes privilégiées. Pour conclure, vous vous rappelez de la question que je vous ai posée au début de ce message. Pour quel sujet avez-vous l'habitude de prier ? Votre famille, vos amis, vos proches, votre santé, vos biens matériels, votre nourriture, votre travail, votre foi, autre chose. Toutes ces choses, je vous l'assure, restent bonnes et nous devons continuer à prier pour ces sujets. Mais mon désir pour nous, Église de Saint-Maur, en cette nouvelle année, c'est que comme Paul, nous centrons nos prières sur l'essentiel. Connaître Dieu davantage et comprendre ce qu'il met à notre disposition. Dans le commentaire, toujours, du même commentateur théologien Dominique Angers, j'ai trouvé pertinente la prière qu'il a écrite suite à l'étude de ce passage. Je vais afficher cette prière, et cette prière, voilà, je peux vous l'envoyer. Et en attendant, je nous invite tous à nous lever, et nous allons prier à haute voix cette prière pour conclure ce message. Lisons ensemble, et prions ensemble plutôt. Père céleste, merci pour la foi et l'amour que tu as accordé aux chrétiens de l'église de Saint-Maur. Par l'Esprit, donne-nous sagesse et révélation pour mieux te connaître. Illumine notre intelligence pour que nous comprenions vraiment l'objet de notre espérance, le fait que nous représentons ton héritage précieux et l'extraordinaire grandeur de la puissance que tu mets en œuvre, souvent à notre insu. Loué sois-tu pour cette puissance que tu as déployée en ressuscitant Christ et en le faisant siéger à ta droite. Loué sois-tu pour la victoire de Christ sur tous tes ennemis qui sont dérénamment sous ses pieds et pour son règne souverain sur tout l'univers. Nous sommes fiers d'être l'Église, le corps dont il est la tête. Amen.